N'a ni Dieu, ni prophète, ni esprit saint, pas non plus d'évangile inspiré. En bref, il est issu et dépend totalement de doctrine et de commandements humains. C'est d'ailleurs bien plus une manière de penser qu'une religion. D'après ses propres traditions, le bouddhisme trouve son origine au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Son fondateur se trouve être le fils d'un riche raja des Indes dont le nom est Siddhartha Gautama. Siddhartha se maria à 16 ans et vécut heureux durant 10 années aux côtés de son épouse, Maya. Ayant découvert que chaque être humain est sujet à la maladie, la vieillesse et la mort, Siddhartha, alors âgé de 30 ans, quitta son foyer, sa femme et son fils pour chercher refuge dans un monastère où il devint prêtre hindou. Un jour, après 7 ans de vie contemplative, se trouvant assis sous un figuier, il décida que le bien doit provenir du bien et le mal du mal. Cette affirmation devait, déclare-t-il, servir de clé à toute sagesse et avait par la même profondément éclairé. Il enseigna sa théorie durant les 50 ans qui suivirent. Après une longue attaque de dysenterie, il mourut en affirmant savoir qu'il passait dans le vide éternel, c'est-à-dire le nirvana. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et qui est l'image de Dieu. L'évangile de Christ est la lumière que Dieu envoie pour guider l'homme à la fois dans sa conduite et dans la pratique de sa vie. La lumière de l'évangile est, nous dit Romains chapitre 1 et verset 16, une puissance de Dieu pour le salut. Il n'existe que ce seul et unique message de vérité en matière de spiritualité. Les faits historiques et les irréfutables preuves de sa véracité confirment, sans qu'aucun doute subsiste, que cette lumière éblouissante vient bien du Dieu éternel. Le bouddhisme, quant à lui, base ses droits d'exister en tant que vérité sur les prétentions à l'inspiration de l'hindou Siddhartha Gautama. Durant 7 ans, il chercha une explication satisfaisante à ses vues pessimistes de la vie et décida qu'il avait enfin trouvé la réponse. Il s'agissait du principe dont nous venons de parler, le bien doit provenir du bien et le mal du mal. Après être arrivé à cette difficile conclusion, son visage resplendit de joie profonde. La sagesse lui avait été donnée. Il était maintenant illuminé. Le fait que cette même clé de la sagesse était déjà largement connue et enseignée par les hindous qu'il appelait Karman, la loi de l'acte ou la loi éternelle, ne trouvait absolument pas Siddhartha. La réponse à laquelle il était parvenu constituait en elle-même une illumination. Et c'est la raison pour laquelle il prit ou reçut le nom de Bouddha, c'est-à-dire celui qui est illuminé ou l'illuminé. Combien puissante est la parole de Dieu vivant lorsqu'on la compare au faible mot d'un homme tâtonnant dans l'obscurité et qui finalement décide d'être d'accord avec un vieux principe hindou et appelle cela l'inspiration. Jésus disait, si dans la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Il existe 302 millions de bouddhistes à la surface du globe. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces paroles s'adressaient à tous ceux qui emprisonnaient une gangue d'impureté spirituelle. De nos jours encore, ce qui importe avant tout est de distinguer où se trouve la vérité. Il existe des gens merveilleux dans chaque tendance religieuse. Le bouddhisme n'y fait sans doute pas exception, mais la question demeure, cette religion est-elle de Dieu ou de l'homme? La vérité ou une simple fable? Tout au sujet de Jésus-Christ et de son message repose sur des faits prouvés qui ne peuvent être ignorés par celui qui cherche honnêtement la vérité. Des dizaines de siècles avant sa naissance, des centaines de prophéties avaient été écrites par les plus fameuses, les plus intègres personnalités du peuple juif. L'histoire démontre que ces prophéties se sont accomplies à la lettre. Tout cela faisait partie d'un plan et non d'une suite de coïncidences ou d'accidents. Les miracles de Jésus fleurissaient par milliers, mais même ses pires ennemis les tenaient pour vrais. Nombre de ces prodiges furent transcrits par des témoins oculaires. Des centaines d'hommes qui avaient vécu en sa présence devinrent des martyrs. Il fallait qu'ils parlent, il fallait qu'ils témoignent. La vie de Jésus, son enseignement, ses miracles, n'étaient qu'une succession de vérités à partager. Les écrivains du Nouveau Testament avaient vécu les événements qu'ils relatent. Même en mettant à part l'inspiration du Saint-Esprit qui les guidait, leurs écrits sont autant de récits historiques. Par contre, les dirigeants bouddhistes avouent que rien ne fut écrit sur Gautama durant les quelques centaines d'années qui suivirent sa mort. Ils ne peuvent, d'après leur propre dire, séparer le vrai du faux dans ces chroniques, car il s'agit d'une tâche impossible. Aucun de ces écrivains antiques ne se réclame d'ailleurs d'une quelconque inspiration, et Dieu, notion tout à fait abstraite pour eux, n'était pas là pour les diriger. L'une des plus grandes preuves de la véracité du christianisme est la série de livres merveilleux que constitue la Bible. Pierre dit à ce propos, la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce fantastique volume a été écrit par environ 40 écrivains différents durant une période d'environ 16 siècles. Il contient 66 livres. Et malgré cela, on n'y trouve pas une seule contradiction. Il en appelle aux peu instruits. Il est pourtant une véritable nourriture pour les plus grands savants du monde. Il s'en vend environ 40 millions par an. Et il existe environ 30 000 fois plus que n'importe quel livre au monde. La Bible est et restera la plus grande merveille littéraire de tous les âges. De telles prétentions ne peuvent être avancées par les soi-disant écrits sacrés bouddhiques. Citons tout d'abord le Tripitaka, autrement dit les trois corbeilles de la sagesse. Il compte 29 subdivisions allant de 10 à 1839 pages. Tout n'a pas été traduit en français, ni même publié dans la langue originale, le pali. M. Joseph Gard, qui fait autorité en matière de bouddhisme, affirme que tant de volumes ont été ajoutés au livre sacré du bouddhisme qu'en faire une simple liste prendrait plusieurs pages de caractères très serrés. Le centre, l'âme du christianisme, est l'amour que Dieu éprouve pour le pécheur, allant jusqu'à lui offrir la vie éternelle s'il accepte sa grâce en faisant ce qu'il demande. Jean, chapitre 3 et verset 16, affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À nous de saisir cette vie éternelle. Paul recommande à chacun de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu, et par conséquent, la mort du chrétien devient une porte qui s'ouvre sur une vie sans fin, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Le bouddhisme présente une image sensiblement différente. Gautama ayant toujours eu un pessimisme inné de l'existence, sa manière de penser reflète cette tendance en enseignant que le bouddhisme ne donne aucune paix sur terre, mais débarrasse l'être de la vie. Les jours ne sont pas dignes d'être vécus à cause de l'âge avancé qui vous atteint, des maladies ou de la mort. Étant convaincu qu'après le décès, chacun doit renaître dans le même monde, Gautama chercha un échappatoire à cette renaissance. il décida finalement que le moyen de l'éviter était de ne plus rien désirer. Le bouddhisme proclame donc que la vie n'est qu'un cercle sans fin de nouvelles naissances qui ne peut être brisé que par la cessation de tout désir. Une fois cela accompli, on entre à la mort dans le nirvana, c'est-à-dire l'état de non-existence. Cela rejoint en quelque sorte la théorie de l'athée. Il n'est pas étonnant de constater que seulement 3 ou 4 bouddhistes ne se soient réclamés de l'illumination durant ces 250 dernières années. Leur grand but était tellement négatif, en dehors de tout espoir de félicité, que les masses lui préfèrent la triste existence de maladie, de vieillesse et de mort. Quel gouffre sans fond lorsqu'on compare tout cela aux promesses glorieuses de notre bien-aimé Père, qui nous donne la vérité spirituelle pour nous conduire à la vie éternelle en sa divine présence. La Bible constitue le plus grand miracle de tous les temps, de par les événements qu'elle relate, notamment concernant le peuple juif. Et ensuite parce qu'elle contient dans sa seconde partie du Nouveau Testament tout ce que l'homme doit connaître afin d'assurer son salut. Le Nouveau Testament débute par les évangiles, qui, bien qu'ayant exercé une action indescriptible sur le monde entier, ne forment jamais qu'un petit volume de 100 pages à peine. On les lit depuis toujours, on y revient sans cesse, sans parvenir à en extraire l'essence. Vient ensuite un livre sur l'histoire de l'établissement de l'Église primitive et diverses lettres adressées toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, soit à des chrétiens, soit à des assemblées de disciples. Le Nouveau Testament se termine par le récit des révélations faites à l'apôtre Jean. L'ensemble de ces documents nous dévoile le testament du Fils de Dieu au profit de l'humanité coupable. Ces pages, dont on n'épuisera jamais la signification, la beauté, la richesse, vous en êtes-vous déjà sérieusement approché? De méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6, rue Étienne Falconet, 31-130, Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6, rue Étienne Falconet, 31-130, Balma. Au revoir.
Que le Seigneur vous garde. Et à mercredi prochain.
Amen.